Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Les grandes gueules du sport grisonnant ce matin, on va pas se le cacher, avec Christophe Cessieux, avec Denis Charvet, avec David Douillet et Julien Benneteau. Et moi j'ai quelques petits cheveux blancs, hein, commence à arriver, je peux vous le cacher sur le côté, ça commence à être compliqué.
Il y en a un autre qui arrive et qui a les cheveux blancs.
Ouais, Eric Salio va arriver pour nous parler
c'est
de tennis
pour ça dans un instant. Grisonnant.
Tiens, on félicite l'équipe de France de badminton qui s'est qualifiée pour les finales du Mondiaux par équipe au Danemark. C'est la première fois de l'histoire.
C'est Christophe qui t'en a fait part.
Oui, bien sûr, grand joueur de badminton.
De badminton.
Il y a pas qui est capable de le dire.
Tu le dis pas là.
C'est bon, badminton.
C'est qui badminton. C'est les frères Popov.
Et les frères Popov, bien sûr. Je t'imagine bien t'énerver, toi, avec le volant là. Oh, mais ça avance pas,
ça
ce truc.
Ça avance pas, ces volants là.
Je sais combien il va le volant.
Pas plus de 400 km/h.
Ouais, mais juste au démarrage. Hein.
Il va pas longtemps. Hein.
C'est une vraie info, ça, Denis.
Oui, c'est
et parce que Denis, il est capable de dire des choses avec beaucoup d'aplomb.
Tu veux prendre pour une truffe.
400 km/h.
Plus. Qu'à la sortie de la raquette,
Denis a raison. Le beach tennis.
Ah oui.
C'est bien le beach.
Rapport au fait que tu peux aller te baigner assez rapidement.
Non, mais c'est dans le sable, tu peux te jeter.
Ah oui.
Qu'est-ce qu'il fait au Brésil?
C'est pour ça que derrière, il revient avec un poignet cassé. Allez, retrouvez la première heure des grandes gueules du sport en podcast sur toutes les plateformes. Évidemment, on a parlé de l'avenir du foot. Tiens, est-ce que l'avenir du foot doit être PSG Bayern ou pas, le football TikTok, tous ces trucs-là, quoi. Voilà, on a parlé de vélo aussi. Dans un instant, on va parler de Formule 1. Tiens, de retour à Miami après un mois d'absence. Course sprint à 18h, qualif ce soir à 22h. Tiens, c'est Lando Norris qui va partir en tête de la course sprint. Grand Prix demain à suivre sur RMC. Quelques modifs, mais pas de révolution. Hein. Pour l'instant, dans la réglementation de la F1, sans changement majeur, est-ce que la F1 prend un risque? En fin d'émission, participez au jeu du sport avec vos GG. Remportez votre badge de télépéage fully crédité de 150€ de péage, idéal pour vos vacances, pour simplifier votre passage au péage. Ça marche en France, en Espagne, au Portugal, en Italie. Pour gagner votre badge fully, appelez le 3216, touche 4 ou envoyez sport au 732-16. Sport au 732-16. Mais d'abord, sur le ring, attention, là, faut se préparer. Là, il faut se préparer. Hein. On a 3 semaines de Roland Garros. Hein. Tous ces trucs-là, et tout, alors, ça part en 2 semaines.
Tu le fais bien.
Un support. Cool, ah, mais c'est moi à chaque fois dans les tribunes, tu savais pas?
Ah oui?
Ah oui, je suis le capot de Philippe Châtrier. Allez, Arthur Fils a mesuré le chemin qui le sépare du numéro 1 mondial hier.
RMC, le ring des GG.
Victoire de Yannick Sinner, 6-2, 6-4. Ça a été presque une formalité, tant Arthur Fils a complètement loupé même son premier set. Il y a encore du boulot en vue de Roland Garros.
Henri nous rejoint. C'était un match très difficile.
Je me sens un peu fatigué.
À toi, c'est une défaite amère, ce 16e de finale.
C'était un match complet, je trouve. J'ai loupé un peu sur les moments importants.
À quel moment as-tu senti que la victoire t'échappait quand même, Henri?
À la limite, le premier set, je pense qu'il jouait un peu mieux que moi, j'ai réussi à le prendre.
Bon, après, le deuxième set,
oui.
Voilà, j'ai senti un petit peu sur une perte de vitesse.
Je me sentais bien, on va dire, à ce moment-là. Je pensais que j'avais pris un peu le dessus.
Mais il faut quand même bien dire que j'ai remonté la pente.
6-0.
6-0 ?
6-0, oui.
T'es sûr ?
Ah oui, je suis sûr, oui.
Mais surtout, il envoie un message. C'est peut-être lui le troisième homme derrière Sinner et Alcaraz. Gaël Fils, tu vois.
Me perturbes. Je te perturbe.
Arthur Fils.
Je suis très inquiet pour Eric Salio.
Il
reste plus que 3 semaines pour notre voile du tennis qui arrive. C'était trop dur pour Arthur Fils hier en demi-finale du Masters 1000 de Madrid face au numéro 1 mondial. Yannick Sinner, défaite en 2-7, 6-2, 6-4. Il n'y a pas eu match. Mais le Français de 21 ans s'est encore hissé dans le dernier carré d'un grand tournoi une semaine après son succès à Barcelona. Les GG, je vous pose cette question ce matin à 3 semaines de Roland Garros et malgré la défaite hier face à Sinner. Arthur Fils s'est-il installé parmi le gratin mondial? Vous votez depuis ce matin sur le compte X des GG du sport. J'ai oui Bennett, j'ai non Christophe et Denis. David, tu dis quoi sur ce débat? Oui ou non? Bon, ben, on verra ça tout à l'heure.
C'est à moi que tu parles.
Bah oui, David.
Oui, David.
J'ai répondu déjà.
Ah, bien sûr.
Non, mais...
Non, mais moi, j'avais, j'étais sur un nom et puis j'ai regardé deux ou trois trucs. Je suis plutôt sur un oui.
Plutôt sur un oui.
Ouais, bon.
Bah, alors là,
ouais.
J'ai un oui, non, quoi.
T'es trop influençable, David. T'es trop influençable.
Attendez, juste. Avant que j'insulte Denis et Christophe, je voudrais juste qu'on définisse le gratin.
Oui,
et
c'est après, ça. Non, on verra ça ensuite. Après. Non, mais juste, vous avez remarqué, David Douillet va bientôt monter sur les planches. Vous avez vu l'instant Vincent Cassel qui m'a fait, là? C'est à moi que tu parles. Robert De Niro. Incroyable.
You're talking to me.
You're
talking to me.
Ah ouais, donnez-lui César. Arrêtons quoi. Allez, vous dites non à 64%. Arthur Fils ne s'est pas installé pour vous parmi le gratin mondial. Eric Salio, notre voix du tennis sur RMC, nous rejoint. Salut Eric.
Salut les grandes gueules.
Allez, Eric. Eric qui s'est fait une coupe d'été comme à chaque fois à l'approche des internationaux de France.
Magnifique.
Tu regardes tous les matchs, Eric, tu les commentes également. On te félicite pour ça. Est-ce qu'ils sont beaucoup et plus forts que lui aujourd'hui, Arthur Fils?
Ça, c'est bien une question piège. Hein.
Excellent.
C'est écoutez, la question qu'il faut poser.
Grâce à son parcours à Madrid, Arthur Fils va pointer lundi au 17e rang mondial. Donc, il y en a 16 qui sont devant lui. Ça, c'est basique. Maintenant, sur les résultats des 4 premiers mois de cette année, le francilien se situe à la 4e place. Il a pris beaucoup de points partout où il est passé. Doha, Miami, Barcelone et donc Madrid. Au classement de cette race, il est simplement devancé par Yannick Sinner, Carlos Alcaraz et Sacha Zverev. Comme vous êtes des filous, vous allez me dire, bah il est 3, puisque Carlito c'est un infirmerie.
Bah il est 3.
Et comme je vous connais, vous allez me dire, ça vaut une demi-finale de Schlem.
Ça vaut une demi-finale de Schlem. Voilà.
Sauf que les majeurs, c'est presque un autre sport. Le format passe de 2 à 3 sets gagnants. Dans cet exercice, Arthur Fils n'a pas encore fait ses preuves. Il n'a atteint qu'une deuxième finale à Wimbledon en 2024. Il n'a encore jamais joué, ça c'est une info sérieux. Il n'a encore jamais joué un match sur le châtrier à Roland-Garros. Ça fait quand même beaucoup d'inconnus.
Une info sérieux.
Mais la plus grande restant le tirage au sort. S'il doit croiser la route de Yannick Sinner en huitième de finale, et j'ai fait mes petits calculs, moment où on se parle, c'est une chance sur quatre. Gardez bien ça à l'esprit, c'est une chance sur quatre.
Si c'est pas lui, c'est Djoko.
Voilà.
Oui.
Donc,
ou Zverev.
Si je vous dis tout ça, on dit quoi les grandes gueules, hein? On dit quoi?
Il s'en rapproche.
On dit wait and see.
Eh oui, wait and see. Il s'en rapproche, mais il est pas installé.
Mais si.
Mais non. Eric Salio, de plus en plus en forme. Hein. On sent qu'il se rapproche.
Il est magnifique.
Non, mais on sent qu'il se rapproche de son pic de forme. Voilà. Les stages ont été faits pour arriver à son pic de forme.
Il va monter sur la planche aussi. Il fait des.
Ah, mais bien sûr, il est. Mais le problème, c'est un acteur. C'est un one man show.
Ah oui.
Bennett, toi, tu penses que oui, Arthur Fils est déjà installé parmi le gratin mondial.
Mais c'est quoi le gratin mondial? Il est quatrième à la race, les gars. Indian Wells, quart de finale. Miami, demi-finale. Barcelone, victoire. Madrid, demi-finale. C'est-à-dire que ça, c'est des résultats. La constance et la performance, c'est que des résultats des mecs qui sont dans les 5-6 premiers mondiaux. T'as posé la question, qui est meilleur que lui aujourd'hui? Sinner, Alcaraz, Zverev. On oublie Djokovic, on le cite pas parce qu'il est en train de faire du frais. Mais Djokovic est là. Le reste, il est au même niveau. Donc oui, et là, ce matin, Lucas Pouille parle dans le journal de l'équipe. Il dit oui, il est installé dans le gratin. Aujourd'hui, de par ses résultats, de par sa constance, de par sa forme, il est quatrième à la race. Il joue son niveau moyen, c'est top 10. Son niveau moyen, c'est top 10. Ses résultats parlent pour lui. Ça veut pas
donc
dire.
Donc le gratin, c'est 10, quoi.
Bah, dans un sport individuel.
Non, mais il faut savoir.
Non, mais c'est ça, mais dans un sport individuel.
Il faut savoir où on place.
Aussi, oui, concurrentiel, voilà. Aussi concurrentiel que
top
le tennis.
5, top 10.
Quand t'es dans le top 10 mondial, t'es dans les meilleurs joueurs du monde. Ouais. Dire, tu fais partie
moi,
du gratin.
Pour moi, le gratin, c'est les 3-4 premiers. Voilà.
Ah, bah, c'est alors. Si
merci, Denis, à tout à l'heure.
Non, mais Denis, si tu me dis ça, je te dis, ok, il n'y est pas.
Mais non, mais moi, pour moi, la race, il parle de la race. La race, c'est quatrième mondial. Mais à Roland-Garros, la race, elle compte pas. On est d'accord. Donc, il sera 17.
On rappelle la race,
c'est le classement. À partir du 1er janvier.
Donc, ça veut dire que, d'abord, il a jamais joué, donc, il a jamais passé les huitièmes ou il est jamais dans le huitième à Roland, non? Je me trompe.
Mais arrêtez d'avoir pris le prisme Roland-Garros.
Moi, hier, s'il avait accroché hier Sinner, je t'aurais dit oui. Là, hier, il a été fessé par Sinner en 2-7.
Mais il est en demi-finale.
On parle pas de 3-7 gagnants.
Mais Sinner, il va finir peut-être dans le quatrième meilleur joueur de l'histoire du tennis.
Eh ben, mais donc, il est pas, il s'en rapproche, mais il est
meilleur
pas installé.
Meilleur joueur de l'histoire du tennis mondial.
Mais d'accord, mais il s'en rapproche, mais pour moi, il est pas installé.
Mais bien sûr qu'il est installé.
On verra Roland.
Pour moi, mais à Roland, c'est arrêtez de dire on verra donc, à Roland. S'il perd en huitième contre Sinner, ça veut pas dire qu'il est mauvais.
Donc ça veut dire si avec des mecs comme Sinner ou Alcaraz que Arthur Fils ne gagnera comme les mousquetaires jamais aucun tournoi du Grand Chelem parce qu'il sera toujours barré par ces mecs-là.
Alors pour l'instant, il a que 21 ans et que dans 5-6 ans, je sais pas ce que vont faire Sinner et Alcaraz. Est-ce qu'aujourd'hui il est un petit peu en dessous d'eux? Oui, je pense que lui-même le reconnaît. Peut-être. Est-ce que les deux peuvent lui barrer la route d'une victoire d'un Grand Chelem? peut-être. Mais à côté de ça, s'il gagne des Masters Smith, s'il finit troisième mondial, est-ce qu'on pourrait dire que c'est une mauvaise carrière? Est-ce qu'on pourrait dire qu'il fait pas partie du gratin mondial?
Non, mais surtout, enfin, il faut quand même se rappeler de où on vient, hein. Un Français qui fait deux demi-finales de Masters 1000 consécutifs, rappelons-nous, on était il y a quelques mois même, pour le tennis français.
Dernier, en 92.
Non, mais voilà.
Il faut savoir où on est.
Oui, mais dans le cyclisme, on remonte très loin par rapport à Paul Sexas et ses performances. Pour Arthur Fils, dans le tennis, ce qui est en train de se passer, c'est aussi du jamais vu depuis un petit moment. David,
est-ce que c'est meilleur que Tsonga, que mon fils, que Simon, oui, que Gasquet, de cette génération qui a quand même été.
Mais les mecs, ils ont fini 5e et 6e mondiaux. Est-ce qu'Arthur Fils va finir mieux que 5e mondial? J'en sais rien, personne ne peut le dire. Mais tout ce qu'il fait là aujourd'hui, c'est monstrueux.
Tsonga et Gaël Monfils faisaient partie du gratin mondial quand ils étaient à ce niveau-là.
Il y en a certains qui vont dire que non.
David.
Mais si. Installé. Est-ce qu'il est installé dans le gratin mondial? Il faut faire attention.
Alors, je vais te dire, s'il n'a pas de pépin physique.
Ouais, mais le problème, c'est qu'il en a souvent.
Il a que 21 ans. Je pense qu'il est en train de régler.
Oui, mais depuis qu'il est revenu, tout va bien.
Parce que Joe, ton gars, à son âge,
l'année dernière, Loïs Boisson, qui termine et qui fait demi-finale à Roland-Garros. Est-ce qu'elle est installée?
Non, quand tu vas pas du tout. Et tu parles de Loïs Boisson, et j'étais le premier à dire, et je pense que Sarah, elle défendait le même point d'avis que moi, c'est que pour nous, c'était un grand coup, mais qu'elle n'avait pas encore été installée parce qu'elle n'avait pas encore fait une saison complète sur le circuit WTA.
Les trajectoires n'ont rien à voir entre Louis Boisson et Arthur Fils. David, toi, sur Arthur Fils installé ou pas parmi le gratin mondial déjà aujourd'hui?
Moi, je pense que je soutiens Julien. Vous vous rendez pas compte du niveau qu'il y a dans ce sport. Il est installé dans le gratin mondial. Par contre, il lui manque, et il lui manque un énorme point de confiance, c'est de battre un poids lourd. Même s'il a battu Zverev une ou deux fois, je crois déjà, même Zverev qui à l'époque, de mémoire, était numéro 2 mondial, je crois que c'était l'année dernière, ou il y a 2 ans. Bref, en tout cas, il a besoin aujourd'hui de battre un Taulier. Il a besoin de battre un Alcaraz, un Sinner, il a besoin de confirmer ça. Mais installé dans le gratin mondial, oui, bah oui, et oui, évidemment que oui. Il est pour moi... Non, mais quand j'ai dit non, je me suis dit bon, j'ai envie de le voir gagner. C'est pour ça que je gagner un grand chelem. Donc c'est pour ça qu'il lui manque ça.
Il peut être sur une trajectoire.
Mais on peut pas dire qu'il est pas installé. Personne peut dire qu'il est pas installé. Bien sûr qu'il est installé. Il a une régularité de résultats, même s'il a pas le top résultat. Et le top résultat, il l'obtiendra à travers une grosse victoire face à un Taulier. Il a besoin, pour moi, j'ai l'impression qu'il a besoin de se débloquer par rapport à ça.
Tiens,
et c'est ce qui va se passer.
Ludo sur WhatsApp au 06 12 424 424 va un peu dans ton sens. Christophe, il dit installé, c'est une saison pleine répétée comme l'ont fait Gasquet, mon fils, et Joe Wilfried Tsonga, voilà. Les mousquetaires. Juste, je voudrais dire des mots d'Arthur Fils hier après la rencontre. Il dit, je dois jouer plus de matchs à ce niveau-là contre les 4 ou 5 meilleurs mondiaux pour m'habituer. Pour l'instant, j'ai gagné de très bons matchs contre de très bons adversaires, mais ce ne sont pas les meilleurs. Ce sont de nouvelles expériences. Ça fait partie du voyage. Voilà, lui aussi.
Non, mais il se projette, c'est bien.
On sent une maturité aussi dans son discours, moi je trouve.
Exactement. Et si c'est pas un conseil à lui donner, mais de prendre exemple sur quelqu'un, de prendre exemple sur Wawrinka. Wawrinka, il avait au fond de lui l'objectif d'essayer d'aller gagner un grand chelem dans une génération où il y avait les Murray, les Djoko, les Nadal et les Federer au prime. Il dit, il y a des étapes à franchir dans une carrière. Il faut gagner des 250, il faut être capable de gagner des 500, il faut être capable de gagner des 1000. Et ensuite, si tu dans ces tournois-là, si tu arrives à gagner, tu peux essayer de prétendre à aller gagner plus haut. Arthur Fils, il fait ça. Il a déjà gagné 3500 dans sa carrière. À 21 ans, c'est pas rien. Il se rapproche en 1000. Il fait plusieurs fois demi-finale. Donc la prochaine étape, c'est d'aller en finale.
D'en gagner un.
Et ensuite, effectivement, les matchs en 5-7, l'appréhension, etc. Et ça va venir quand il va définitivement s'installer. Quand je dis définitivement s'installer, pourquoi? Parce qu'on en parlait... Eric, dans son propos sur les grands chelems, c'est un autre sport, 5-7, et le tirage au sort et le statut de tête de série est très
déterminant.
Important. Donc, quand il va s'installer, définitivement.
Ben oui, mais tu vois, c'est paradoxal. Tu dis quand il va s'installer définitivement.
En fait, en train de revenir en arrière.
Moi, je reviens à ce qu'a dit David.
C'est ce que tu es en train de dire, c'est qu'il sera véritablement installé
quand il battra les élégants.
Il a réussi un super parcours à Roland-Garros qui fait et défait les rois en France. Moi, les rois du tennis.
Non, pas du tout. Alors, moi, c'est pas du tout le parcours à Roland-Garros qui va définir ça. C'est que là, moi, je lui donne 3 mois de plus. Pourquoi? 3 mois de plus pour qu'il rattrape le temps perdu de l'année dernière à cause de sa blessure. Laissez-moi m'expliquer. C'est parce que les 3 mois qu'il va prendre à mettre à profit, il a 0 point à défendre. Donc c'est un peu technique. Mais du coup, son classement là de 17e mondial aujourd'hui, à Wimbledon et juste après Wimbledon, il sera dans les 10. Mathématiquement. Et
si, right. Il a raison. He's right.
Et ça, en fait, et du coup, en comblant ce retard qu'il a pris l'année dernière dû à sa blessure.
Là, non, mais qui progresse, on est d'accord avec toi.
Non, mais là, il va s'installer, c'est-à-dire qu'en grand chelem, il va être tête de série 8 à chaque fois, et là, il va pouvoir enquiller les quarts de finale récurrentes en grand chelem, jouer ces mecs-là de plus en plus, monter.
Mais oui, mais tu te projettes à 3 mois, 4 mois.
Non, mais aujourd'hui, il est installé parce qu'il ne perd plus qu'on des mecs 20e, 15e ou 12e. Il ne perd pas.
Oui, mais il faut qu'il gagne un grand. Il faut qu'il gagne un grand chelem.
Là, moi, je pense que vous n'arriverez pas à vous trouver tous les deux. C'est le prisme, en fait. C'est-à-dire que le grand public, par exemple, va juger Arthur Fils sur les grands chelems. Parce qu'il ne va pas regarder les Masters 1000, il ne va pas regarder les ATP 500, 250. Et c'est la même chose pour Paul Sexas. Paul Sexas, les gens vont regarder Tour de France.
Ou les classiques, ou les monuments. Julien, tu le mettrais à la table des parents avec Djoko, Alcaraz, Sinner, ou la petite table juste à côté. Non, mais tu sais, dans les repas de famille, t'as la grande table avec les adultes et t'as la petite table pour ceux qui.
Il est à la cantine, lui.
Installé à la table.
Le débat aujourd'hui, c'est pas si c'est déjà légal d'Alcaraz ou Sinner.
C'est pas le gratin mondial, Djoko, Alcaraz et Sinner. C'est au-delà de ce qui s'est fait.
Ah, c'est au-delà du gratin.
Mais bien sûr,
le gratin. Les gars, il frappe à la porte, c'est évident.
Mais si Sinner a été aussi bon hier, on n'a pas dit le contraire.
Pas tous en même temps, Eric.
Il frappe à la porte. Et si Sinner a été aussi bon hier, si Alcaraz a été aussi bon au final des joueurs, c'est parce qu'ils en ont peur. C'est parce qu'ils ont préparé le match avec les coachs, qu'ils ont étudié les failles. Et ce match d'hier va servir quand ils vont se retrouver sur le central de Roland.
Non, mais quand tu dis qu'il a eu peur hier, je suis désolé, j'ai vu un peu le match, il n'a jamais eu peur.
Mais il s'en méfie
comme Pogacar se méfie de Sexage. Je suis d'accord avec toi. Mais peur, non. On a eu le débat la semaine dernière. Est-ce que Pogacar doit avoir peur de Sexage? Je disais non. Eh ben, je pense
qu'il le voit comme une menace future.
T'as une table où t'as Dan Carter, Wilkinson, Gareth Edwards.
Et Denis Charvet.
Et juste derrière, avec toi, t'as Dupont. Tu l'assois à la même table?
Dupont, oui.
Oui, Dupont, oui.
Antoine Dupont, tu le mets à la même table que Wilkinson.
Il a été meilleur joueur du monde. Il a été numéro un mondial. Est-ce que Arthur a été
champion? Là, t'en reviens à un point crucial. Tout est fonction de la carrière du joueur, en fait. Puisque tu es en train de dire que Dupont, il a pas été champion du monde, donc il peut. Tu sais combien il a le titre de champion d'Europe, de champion de France? Ben oui, d'accord.
Ça dépend où tu mets le prisme.
Mais il a été un grand chelem, il a été champion de France.
Ce qui est quand même insupportable, c'est que là, on a un garçon qui va peut-être rentrer dans le top 3, dans le top 4, et que vous êtes en train de le torpiller. Ça me rend dingue.
Mais non, mais pas du tout.
T'es vraiment un gros sous-marin, on torpille personne, là, David.
Pierre, au 32-16, nous appelle.
Allez, va dans le détroit d'Ormuz, vas-y.
Ça, c'était inattendu, ça, comme résolution de conflit. Pierre nous appelle d'Ajaccio, dans les grandes gueules du sport. Salut Pierre, bienvenue.
Bonjour à tous.
Pierre, est-ce que Fils s'est installé parmi le gratin mondial?
Pour moi, à l'instant T, je dirais non, et on verra à la fin de l'année.
Voilà.
Bon. À l'instant T, il a fait trois bons tournois là d'affilée qu'il a réussi à faire d'affilée, des finales et tout. Mais on verra à la fin de l'année. Et après, moi, je vais encore aller plus loin.
Trois mois de suite.
Roland-Garros, déjà, je serais déjà heureux s'il passe en deuxième semaine. Oh. Oui. Parce que c'est un autre tournoi, Roland-Garros.
Là, je suis d'accord avec toi. Deuxième semaine, c'est un bon résultat pour lui.
Non, mais
il faut pas lui mettre trop de pression sur son premier Roland. Il faut pas dire qu'il faut qu'il fasse demi. Déjà, deuxième semaine sera très bien. À 21 ans, je pense que c'est très bien.
Non, mais
je suis d'accord avec lui.
Non, mais Pierre a raison. Il faut pas que nous on vende n'importe quoi.
Non, voilà.
C'est aussi le rôle du journaliste de pas dire que Sexas peut gagner le Tour de France, de pas dire que Fils doit faire finale de Roland-Garros.
Bien sûr, il a fait 3 mois de suite.
Mais Donc, la question c'est est-ce que honnêtement un jour Arthur Fils peut être en finale de Roland et peut gagner Roland ou Wimbledon ou peu importe un tournoi du Grand Chelem.
Pour moi la réponse est oui. Ils ont gagné, donc oui bien sûr il y aura une fenêtre.
Il
y aura une fenêtre.
Donc, au-delà de ça, est-ce qu'il peut vraiment Parce que tu peux, de temps en temps, comme Wawrinka, Cilic, remporter un tournoi du Grand Chelem. Est-ce que tu penses qu'il peut s'inviter vraiment dans le duo de tête, à être au même niveau qu'Alcaraz? Est-ce qu'il a encore une marge de progression qui pourrait lui permettre d'atteindre ce niveau-là?
Si, il a
21 ans, oui.
Oui, il a une marge de progression.
Oui, bah, en fait, tu sais qu'il y a des mecs qui déjà qui tapent la tête.
Et puis tu vois, regarde, il dit un truc, il a dit après la tournée américaine où il avait enchaîné Indian Wells Miami des bons résultats, il disait je perds trop d'énergie pendant les matchs. Et déjà il a changé, donc il dit j'apprends vite là-dessus. Et il est super
c'est
bien entouré.
Il s'est pas énervé hier, il est focus comme à Barcelone.
Il est très bien entouré et je pense qu'il sait où il veut aller. Et comme a dit Eric, dans l'avenir il va y avoir des ouvertures dans les tableaux de Grand Chelem, c'est obligé. Et il faut qu'il soit prêt à saisir cette chance.
Il est très bien entouré. On rappelle son coach Goran Ivanišević, hein, l'ancien coach de Djokovic, ancien vainqueur de Wimbledon, Ivanišević. Merci Eric Salio. Et on le verra à Rome, Arthur oui. Fils. Et après, il aura une semaine de prépa avant Roland-Garros.
Je pense qu'il va taper à Roland, ouais.
On t'en comme un dingue.
Ça, c'est l'info Salio. Il va taper sur le châtrier pour prendre ses marques. Ouais.
À tout moment, tu peux venir pour une info Salio. On va préparer un petit jingle.
C'est nouveau l'info Salio. Il avait tapé à 21h un soir. Il avait ouvert le cours, exprès pour lui.
À trois semaines de Roland Garros, Arthur Fils s'est-il installé parmi le gratin mondial? Vous dites non à 64%. Ça n'a pas bougé. Dans un instant, on parle Formule 1 avec le retour de la Formule 1 ce week-end à Miami. Est-ce que sans changement majeur, la F1 prend un risque avec la réglementation? On va accueillir Jean-Luc Roy dans un instant et vous au 32-16. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Et oui, les moteurs de Formule 1 à nouveau sont de retour. Je sais pas si c'est les nouveaux moteurs, ça, ils font ce bruit-là maintenant. Là. Non, attention, parce que là, sinon, on va fâcher Jean-Luc Croix qui va arriver dans un instant. Notre voix de la F1, le j'y crois pas, arrive également. Je remercie Pierre d'ailleurs d'être venu au 32-16 hein, pour parler de tennis avec nous. Mais d'abord, oui, c'est le retour des monoplaces à Miami après un mois d'absence. Qualif ce soir à partir de 22h, Grand Prix demain à la même heure à suivre sur RMC. Avant, il y aura la course sprint cet après-midi à 18h. Norris en tête avec sa McLaren. Devant la Mercedes d'Antonelli, le leader du championnat, et Piastri sur McLaren, Hadjar par 9, Gasly 10. Vous savez que la nouvelle réglementation a fait beaucoup parler en début de saison, notamment ici avec ses moteurs 50% électriques, la récupération d'énergie, la possibilité d'aller à fond sur un tour, les boosts façon Mario Kart. Bref, face aux critiques, la FIA a apporté quelques ajustements, pas assez selon le quadruple champion du monde, Max Verstappen.
RMC, la punchline GG.
Il y a eu quelques modifications, des ajustements, on va plutôt appeler ça. Max Verstappen a dit ce n'est qu'une petite retouche, pas encore ce qu'il nous faut pour pouvoir vraiment attaquer à fond. C'est compliqué de mettre tout le monde d'accord. J'espère simplement que pour l'année prochaine, on pourra faire de très très gros changements. Les amis, sans changement majeur, la F1 prend-elle un risque oui ou non, selon vous? Bennett?
Oui.
Christophe?
Non.
Denis?
Non.
David? Fan de F1, on vous attend au 32-16, évidemment, ou sur WhatsApp au 06-12-424-424. Jean-Luc Roy, notre voix de la F1, nous attend, évidemment, pour nous commenter le Grand Prix ce soir. Salut Jean-Luc, Grand Prix
oui,
demain.
Salut Georges, et bonjour à tous.
Ravi de
salut
retrouver.
Jean-Luc.
Jean-Luc. Moi aussi.
Jean-Luc, tiens,
voir.
Rapidement, la F1 oui. pour les nuls. En une minute, est-ce que tu peux nous expliquer ce que la FIA à modifier, est-ce que bah, certains, comme Verstappen, considèrent seulement comme des ajustements?
Alors, en une minute, je peux pas. Parce que c'est une usine à gaz. Écoute, en fait, on a essayé de limiter les conséquences de ce règlement aberrant, je l'ai déjà dit à de multiples reprises, et à redonner un petit peu de pouvoir aux pilotes, parce que jusque-là, eh bien, c'est la machine qui décidait beaucoup trop. Le cas critique, c'est quand même Lando Norris au Japon, qui dépasse Lewis Hamilton devant lui, alors qu'il ne le voulait pas. Tenez-vous bien, c'est du jamais vu en Formule 1. J'ai jamais entendu parler d'un truc comme ça. C'est-à-dire que c'est la machine qui a décidé, qui avait accumulé suffisamment d'énergie pour quelque part accélérer toute seule et l'obliger à dépasser Hamilton qui était devant. C'est absolument insensé, c'est invraisemblable, c'est la négation même du sport automobile. Alors, ceci posé, bah on a pris des mesurettes, effectivement, je l'avais dit avant, c'est vraiment un cataplasme sur une jambe de bois, parce qu'il y a des contraintes techniques, électroniques. Qu'est-ce qu'on a fait? Bah on a redonné aux pilotes un tout petit peu de pouvoir, mais vous allez voir que paradoxalement, on l'a redonné à travers l'électronique, c'est-à-dire qu'à travers, on va va commencer par les qualifs, puisqu'on a déjà eu une séance de qualifs pour la sprint race et on en aura une autre tout à l'heure, là, en fin de journée, pour le Grand Prix en lui-même. Eh bien, on a fait en sorte que l'accumulation d'énergie dans le tour qui précède le tour de qualif soit automatique, que ce soit plus au pilote manuellement d'intervenir à 50% sur la puissance électrique. Alors, vous voyez jusqu'où on va. En termes de récupération d'énergie, là, on est vraiment dans la technique, je vais vous larguer, hein. On avait déjà diminué, les 9 mégajoules sur un tour, ça vous parle, moi aussi. Bien sûr, on se rappelle des leçons de physique quand on était en première, si je me rappelle bien. On l'avait descendu à 8 mégajoules. Énorme révolution, on est tombé à 7 mégajoules. Oh là là, ça c'est incroyable. Et puis de même, alors là on touche vraiment du doigt le ridicule. Les pilotes qui sont toujours à l'affût de plus de puissance, de plus de performance, eh bien c'est l'inverse. Comme il risque de pleuvoir demain et les menaces sont vraiment sérieuses pour le Grand Prix, et ce serait évidemment la première fois que ces nouvelles monoplaces avec ces nouvelles réglementations roulent sous la pluie, le débordement d'énergie et de puissance est tellement violent que les pilotes craignent de ne pas être capables de maîtriser cette puissance. Donc on a limité l'apport électrique. Ça veut dire que quelque part, pour vous la faire simple, à travers ces 3 ou 4 mesures, on essaie de réduire les conséquences néfastes de cette réglementation stupide. Je dis bien de réduire, et une nouvelle fois Verstappen a parfaitement raison, c'est des mesurettes, c'est ridicule. Il espère qu'on pourra travailler pour 2027. Alors la seule chose que les pilotes mettent en avant, c'est que pour une fois on les a écoutés, mais c'est trop tard. Fallait les écouter avant, et ils auraient prévenu, ils l'avaient dit en simulation sur les simulateurs, ils savaient ce qui allait arriver. C'est en train d'arriver.
Bennett, pour toi la F1 prend un risque ne faisant pas des modifications plus importantes?
Bien sûr, parce que les pilotes se plaignent et se plaignent ouvertement. Et donc, quand les acteurs même d'une organisation ou d'un sport se plaignent ouvertement, ils se tirent une balle dans le pied. Mais c'est à juste titre. L'apport technologique, la technologie dans la Formule 1, ça a toujours été l'essence même de ce sport. Mais là, ça prend trop de place, notamment autour des qualifications. Les pilotes disent qu'ils peuvent même pas attaquer, ils sont obligés de freiner ou de lever le pied en ligne droite, ce qui va complètement à contresens de l'essence même du pilotage. Et puis aussi, il y a un autre truc, c'est qu'il y a un problème de sécurité avec ces voitures et que les pilotes ont peur pour leur sécurité. Et on verra s'il pleut demain et ils ont peur aussi sous la pluie. Donc, ça va pas trop dans le bon sens. Le public l'entend et commence à se désintéresser. Il y a eu 40% de chute d'audience sur le dernier Grand Prix en Europe, en France notamment, 50% dans certains pays. Donc, faut faire attention parce que Mercedes avait dominé le début de championnat. Tout le monde disait que c'était un championnat où les voitures pouvaient être développées et pouvaient vraiment être améliorées. On va voir. Là, les Ferrari, les McLaren ont l'air bien. On va voir ce que ça va donner pour redonner un petit peu de duel. Mais oui, les pilotes, si les pilotes sont aussi unanimes sur cette réglementation, c'est qu'il y a un gros problème.
Vous voulez quoi, en fait? Parce que là, les gens de la F1 ont pris un risque. On a décidé de tout changer. Le problème, c'est
pas des voitures électriques. C'est pas un truc de voiture de golf.
Ok, mais là à mi-saison, même pas à mi-saison, qu'est-ce que tu peux faire? Tu reprends les voitures de l'année dernière ou celles des années 90, Jean-Luc? Qu'est-ce que tu peux faire? Quelle est la solution? À part leur mettre des gros réservoirs sur le toit pour qu'elles aillent plus vite. Vous me faites marrer, quoi. Les mecs ont pris des risques incroyables.
Mais le mal est fait.
Donc tu peux pas tout changer comme ça en l'espace de quelques semaines. Laissez sa chance au produit. On va voir ce que ça va donner. Et d'ailleurs,
Verstappen n'est pas aussi négatif que vous dites.
Il dit, je pense que tout le monde a essayé de faire de son mieux pour au moins apporter quelque chose. Le point positif, c'est qu'on a eu de bonnes réunions avec la F1. Et la FIA, c'est un point de départ intéressant pour l'avenir. Donc voilà, même si Verstappen le dit, alors que pourtant il est pas tendre habituellement avec les dirigeants de la F1, je veux dire là, ils sont partis sur un nouveau modèle. Bon, ben pour l'instant, ça donne pas satisfaction, mais tu peux pas t'arrêter comme ça en plein milieu du guet. T'es obligé d'aller au bout.
C'est vrai que l'argument premier de Jean-Luc, c'est la sécurité, en fait. C'est ça.
Ouais, voilà.
C'est
ça, problème. Oui, c'est l'argument qui permet de modifier les choses dans les lignes droites. La sécurité.
Voilà. Plus s'arrêter dans les lignes droites.
Pour l'instant, il y a pas eu trop de crash, Jean-Luc.
Bah oui, mais bah attention,
tu veux pas attendre
qu'il y ait un crash. En fait, il y a eu un
Suzuka. Il aurait pu se tuer.
Voilà,
Norman
et Colas Pinto. David, toi, je sais que toi, David, t'aimes bien la nouvelle réglementation, par exemple.
Moi, j'aime bien parce que je trouve que. Parce que pourquoi la FIA a fait ça? C'est pour essayer de réguler les différences entre les écuries, entre les voitures. Entre
on voit ce que ça donne.
C'est pour faire, venir les constructeurs. Voilà.
Exactement.
Faire venir Audi et Cadillac. Voilà.
Ouais, oui, mais aussi pour mettre un peu plus de piment et de spectacle, parce que souvenez-vous des saisons passées, vous aviez une écurie qui menait le championnat de la tête, des pieds et de tout, et puis il se passait plus grand chose.
Ah bah là, c'est ce qui risque de se passer avec Mercedes aussi, David. Hein.
Pas l'an dernier.
Non. Georges. Oui, l'an dernier, oui, mais enfin, si on fait sur une échelle de 10 ans, tu seras d'accord avec moi.
Et puis,
ce qui s'est passé sur les qualifs pour la course sprint hier soir, on a vu que Mercedes, ils sont au troisième plan là, tu vois.
Regarde
les chronos de, regarde les chronos de Ferrari et de McLaren. Excuse-moi, mais la lecture, elle est quand même assez claire. C'est-à-dire que les deux autres écuries ont commencé à surclasser Mercedes. Je suis désolé, c'est exactement ce qui se passe. Donc en fait, bien sûr que on avance un peu à tâtons. Tout le monde avance un peu à tâtons. Et Jean-Luc a raison de dire attention. Le grand warning, c'est la sécurité. Mais il y a aussi le temps au temps, et là Christophe a aussi raison, il faut que les pilotes s'habituent, il faut que tous les paddocks s'habituent pour que maîtriser ces nouvelles normes technologiques qui sont dans ces voitures-là. Moi je trouve que ils ont le souci du spectacle, ils ont le souci de d'écrémer un peu, de rendre les voitures un peu plus concurrentielles les unes les autres. Je trouve que la philosophie va dans le bon sens. Bien sûr, sur le terrain, bah il y a encore pas mal de d'ajustements à faire, et on est en plein dedans. Est-ce que faut que ça aille plus vite? Certains peuvent peut-être pas suivre. Les budgets sont différents des écuries par rapport aux autres. Faut avoir une vision globale du système. C'est pas si évident. Malgré tout, je trouve qu'on voit plus de spectacles.
Denis, avant de l'écouter, non, Jean-Luc.
Alors, moi, le seul truc, c'est l'argument de Jean-Luc qui pourrait me faire changer d'avis, parce qu'effectivement, sur la sécurité, on n'a pas de.
Évidemment.
On a plutôt des certitudes aujourd'hui, donc c'est quand même grave. Donc, c'est aussi la santé du pilote qui est en jeu. Après, moi, j'aimerais laisser du temps à ce produit, de voir dans les 2 ou 3 ans qui arrivent ce que ça donne. Parce que moi, je m'emmerde pas. Autant, je me suis ennuyé des années, moi.
T'as vu les chiffres d'audience? Ce que disait Bennett.
Oui, mais ça,
il faut faire attention de la domination.
Depuis 30 ans, il y a eu des périodes où on s'ennuyait fermement quand même. Vous oubliez toutes ces périodes.
Mais les gars, vous n'êtes pas du tout sûr que Mercedes ne va pas dominer toute la saison. Hein. Moi, je vous entends depuis tout à l'heure. Mais
justement, laissons du temps au produit de se mettre en place. Peut-être. Et puis les pilotes ne sont jamais contents. Excuse-moi, les pilotes.
Mais là, on n'a jamais entendu une remise en question à ce point.
Au-delà, à mon avis, Jean-Luc, je parle sous ta gouverne, au-delà d'une éventuelle domination d'une équipe, le gros problème, ce sont le type de voiture qu'ils conduisent. Et cette énergie électrique qui prend trop de place dans la gestion et dans le pilotage. Et que les mecs.
C'est une révolution, mais comme toutes les révolutions, il faut voir ce que ça va donner.
Donc, en fait, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez le retour au Ford Course Wars, c'est ça? Je suis sûr que Jean-Luc aimerait ça. Et peut-être que c'est la bonne solution.
Et les V10.
Non, mais les pilotes, ils te disent que. Là où il y a des dixièmes dans un virage, en fonction de comment ils le pilotent, ils sont obligés de lever le pied dans une ligne droite.
Ils sont obligés de s'adapter à cette nouvelle formule.
Ils repèrent l'avantage qu'ils gagnent grâce à leur qualité de pilote.
Denis, il faut s'adapter. T'imagines si jamais tu pars à l'essai et on te dit à 10 mètres, il faut que tu ralentisses un petit peu pour aller marquer l'essai.
C'est comme quand tu pars en vacances avec ta voiture électrique et à 50 bornes de l'arrivée, t'es obligé de t'arrêter pendant 2 heures. C'est ça le problème de l'électrique.
Juste le mot de la fin. Le mot de la fin, Jean-Luc, parce qu'on a les qualifs à 22h ce soir, la course au sprint à 18h. Les cartes sont pas forcément rebattues là sur les écuries. C'est encore trop tôt pour en parler, on est d'accord.
Alors, d'abord, c'est pas dû aux modifications du règlement qui s'appliquent à tout le monde. C'est dû au travail que les écuries ont fait. Je rappelle qu'il n'y a jamais eu, en cours de saison, une interruption de 5 semaines, ce qui est énorme, à l'issue d'un changement de réglementation aussi radical. Donc, on a beaucoup travaillé, ça se voit, notamment chez McLaren, qui était pas très très bien dans les 3 premiers Grands Prix et qui a l'air parfaitement dans le coup. Ils sont revenus très très bien. Voilà. Mercedes a eu des problèmes. Là, alors, c'est pour ça qu'on peut pas juger. Les deux Mercedes ont eu des problèmes précisément de power unit, comme on dit, parce que maintenant on peut plus parler de moteur, de l'ensemble propulseur, c'était peut-être électrique d'ailleurs. Chez Ferrari, on a bien travaillé, chez Red Bull également, on le voit avec... Donc, je crois que vous confondez, si je peux me permettre, deux choses quand vous dites faut laisser du temps au temps, c'est que ça n'est pas... Le but n'était pas de retrouver une compétitivité, on l'avait l'an dernier, rappelez-vous, on avait des grilles entières avec une seconde 8 d'écart. Moi, j'avais jamais vu ça en Formule 1, jamais. Donc, on peut dire que c'était vraiment très serré, c'était disputé. Il n'y a pas eu d'écurie qui a dominé, même si McLaren était bien, mais Red Bull... Non, mais sincèrement. Alors là, on a rebattu totalement les cartes, mais le problème, c'est qu'on a enlevé aux pilotes leur capacité à piloter. Et ça, c'est gravissime, c'est dramatique.
Oui, je suis d'accord.
Et voilà. Oui. Ça, le fond du problème, il est là. Et évidemment, il n'y a que des pilotes qui peuvent l'expliquer. Il l'avait déjà expliqué. Il l'avait dit. Rappelez-vous les déclarations l'an dernier sur les simulateurs, en disant, oulala, je ne sais pas où on va, mais on va dans un domaine qu'on n'a jamais vu. Ben, c'est le cas. C'est-à-dire qu'on a enlevé aux pilotes la capacité de piloter. Et ça, c'est absolument dramatique.
Tiens, je finis avec des messages
les
sur WhatsApp. WhatsApp 0612 424 424. Le problème, ce n'est pas la domination d'une équipe, quelle qu'elle soit, c'est que la F1 a perdu son essence, son âme, me dit Elvis. François l'a dit en complément, je préférais des Formule 1 équipées de moteurs thermiques à l'époque. Et Sofiane me dit, comment peut-on regarder les audiences de Grand Prix qui ont lieu au milieu de la nuit? Bah, c'est juste qu'on les compare par rapport à ceux de l'année précédente.
Juste un tout petit mot, je voudrais rendre un hommage à quelqu'un qui nous a quittés aujourd'hui. Ça te dira forcément quelque chose, Jean-Luc. Alex Zanardi est décédé aujourd'hui. Alex Zanardi, ce pilote qui avait eu un terrible accident et qui s'était fait couper en deux par une voiture. Il avait été amputé, il avait fait de la, la rééducation, était redevenu athlète et avait fait les Jeux Olympiques, avait décroché une médaille d'or en vélo à main et malheureusement avait subi un autre accident. Le sort a été terrible sur ce garçon-là.
En s'entraînant
et dans une descente, et malheureusement il est décédé aujourd'hui. Il avait, je crois, 56 ans.
Et une grosse pensée.
Et un type formidable en plus, un type exceptionnel.
Grosse pensée pour Alex Zanardi, évidemment, les grandes gueules du sport, et on voit toutes nos condoléances à la famille et aux proches, bien sûr. Merci Jean-Luc, on se retrouvera évidemment.
Oui, il y a le sprint race d'abord.
Oui, sprint race, 18h,
déjà, on va voir.
Devant Antonelli, devant.
Normalement sur le sec, parce que la pluie c'est pour demain.
Il vend les courses.
T'as fermé tes fenêtres, t'as tout barricadé à la maison?
Non, tout va bien.
Allez, merci Jean-Luc. Dans un instant, je crois pas. On revient dans un instant sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quilino.
Les grandes gueules du sport avec David Douillet, Denis Charvet, Christophe Cessieux, Julien Beneteau. Ce matin, dans un instant, le vestiaire. On va parler de la peur de rater une grande échéance. Tiens, les blessures là, juste avant une compétition. Est-ce qu'on fait un peu plus attention? Est-ce qu'on lève le pied? Allez, tout de suite, le j'y crois pas.
RMC, les grandes gueules du sport. J'y crois pas.
J'y crois pas, les grandes gueules du sport. Mélina Robert-Michon va faire une médaille au JO 2028 à 48 ans pour ses 8e jeux. Denis?
Non.
David?
J'adorerais. Mais
moi aussi, j'adorerais. Okay.
Ouais, Bennett?
Non, j'y crois pas.
Christophe?
Moi aussi, j'adorerais.
C'est le j'adore pas ou c'est le j'y crois pas?
Ouais, voilà. Mais j'y crois pas une seule seconde.
Vous y croyez pas?
Non.
Oh là là, vous allez vous détendre, les gars, là, ça va.
C'est comme si David Douillet va faire une médaille au jeu de
Los
Angeles. Non, mais ils ont.
Si elle fait les minimas, forcément, elle est dans les meilleurs mondiaux. Elle a annoncé jeudi dans le 48 ans.
Peut-être aux années 2030.
C'est bon. Notre médaille d'argent au lancer du disque au JO de Rio 2016, 12e à Paris 2024. Elle veut continuer, donc elle l'a dit dans le SMS. Elle pourrait devenir l'athlète la plus représentée de l'histoire au JO. Mélina a participé à tous les Jeux depuis 2000. C'est parce que cela semble impossible à 48 ans, dans deux ans, qu'elle veut justement y aller.
C'est peut-être ce qui me motive aussi. C'est le fait que te dire que c'est pas possible, j'ai envie de montrer que si, c'est possible. Et puis que quand physiquement tout se passe bien, quand on est bien entouré, que les perfs sont là, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Si j'y vais, déjà, il faut que je me qualifie. On est dans un sport où on a des performances à réaliser. Donc, si tu fais pas les minima, si tu fais pas les perfs, et les minima sont de plus en plus exigeants, et en général, c'est pour au minimum être dans un top 8. Donc, une fois que tu es dans le top 8, le but, c'est d'aller chercher plus haut que ça et de se rapprocher forcément du podium. C'est pour ça que j'ai pris un peu de temps, parce que j'avais besoin d'être sûre de pouvoir être toujours compétitive, d'être en mesure de rivaliser.
Ouais, David. Non, mais c'est vrai qu'on voit, de plus en plus de joueurs. Regardez, LeBron James s'est qualifié cette nuit en demi-finale de play-off. Non, mais voilà, on voit quand même les athlètes durer de plus en plus longtemps. En tout cas, c'est un magnifique défi.
Des exceptions, quand même.
David.
Ouais, mais justement, le haut niveau, c'est de l'exception, hein. Pourquoi pas?
Oui, oui.
Si t'arrives à aménager ton... Maintenant, tu sais, avec les progrès qui ont été faits en diététique, en médecine, etc., etc., t'arrives quand même à te relever un peu plus facilement de blessures, d'obstacles qui te bouchent la vue et à perdurer un peu plus longtemps. Mais elle le dit elle-même, hein, de toute façon, la qualif, ça là, si j'y suis pas, j'y suis pas. Mais si elle y est, pourquoi pas?
Bah après, rien n'est interdit. Moi, je suis bluffé par rapport à l'âge, surtout. Je me demande, où est-ce qu'ils vont chercher ça, quoi, en fond de même, quoi, à cet âge-là.
Mais elle a envie, elle sent qu'elle a encore l'énergie pour le faire.
Non, mais c'est super.
Justement, parce que c'est impossible, je veux y aller, en fait.
L'idée est super, mais après, on en revient au minima, on en revient à la compétition.
Le truc, c'est que. C'est la meilleure.
Mais voilà, c'est ça. Puis si elle fait les minima, ça veut dire qu'elle fait partie du gratin mondial.
Oui, mais ça ne veut pas dire comment.
Non, mais aller chercher une médaille, c'est autre chose.
Non, mais très sincèrement. C'est normal qu'elle ait la compétition en elle. Donc, franchement, si on avait tous le physique, si on pouvait perdurer, etc., on ferait tous encore de la compétition, c'est évident.
Ouais. Voilà. C'est aussi la peur de passer à autre chose. Hein. Pour certains athlètes, tu en sais quelque mort, chose, la petite mort, Denis. Mort, c'est difficile de décider un jour de ne plus être athlète et de passer une autre vie. Hein. C'est pas évident.
On ne sait pas ce qu'il alimente, Mélina Robert-Michon. Moi, je.
Non, mais qu'elle ait envie de continuer, mais qu'elle fasse une médaille.
J'y crois pas, les amis. S'il vient au Real, José Mourinho va les relancer. Vous y croyez ou pas?
Moi, j'y crois pas du tout.
Peut-être avec son réseau.
David, Christophe, tu crois pas?
Non.
Le technicien de 63 ans est annoncé comme le favori pour succéder à Alvaro Arbeloa sur le banc du Real. Mourinho a entraîné le Real entre 2010 et 2013. Il a échoué 3 fois en demi-finale de Ligue des Champions. Il a gagné une Liga en 2012 quand même. Et pour l'instant, à Benfica, il a une clause libératoire à 3 millions et en contrat jusqu'en 2027. Mourinho a dit hier, j'ai pas reçu d'appel encore.
Oui, donc ça veut dire qu'il a reçu un appel.
Bah, Florentino Pérez, son numéro.
Mais après, ça dépend de. On sait que le gros enjeu pour le Real, c'est le recrutement. C'est-à-dire, c'est quel joueur tu vas aller chercher. Sauf qu'avec Mourinho, peut-être qu'il y a des joueurs qui viendront plus facilement. C'est ce que je me dis.
Après, la force de Mourinho, c'est d'être aussi dans le vestiaire, le respect des joueurs. Est-ce qu'il est encore suffisamment respecté?
Est-ce qu'il a encore l'autorité, l'énergie? C'est toujours pareil. Il a pris de l'âge, quand même, Mourinho. Mais bon, moi, je pense que par rapport au recrutement, je pense que ça peut jouer.
Puis Mourinho est plus forcément au top niveau.
Pour le recrutement, quand t'es le Real Madrid, t'as pas besoin de Mourinho.
Je suis pas sûr. Aujourd'hui, je suis pas sûr.
Je suis assez d'accord avec Ben.
Ça me fait plaisir quand t'es d'accord.
Non, mais je suis pas sûr. Vous avez tort. Vous avez tort. Les plus grands joueurs aujourd'hui sont pas au Real. Je suis désolé.
On ne pense pas comme toi que nous.
Non, c'est pas ça que je dis. C'est que aujourd'hui, tu rentres dans le football. Les plus grands joueurs, ils sont où? Ils sont pas au Real. Excuse-moi.
Ils sont où?
Ils sont où?
Paris Saint-Germain.
Je suis complètement d'accord avec toi, Ben.
Non, mais t'arrêtes.
Vous trouvez pas que c'est du réchauffé quand même?
Du réchauffé. Non, mais c'est pour ça. C'est vrai que Mourinho, il est plus tout à fait. David a raison.
Voilà.
Il est plus tout à fait.
On n'est pas réchauffé.
Le mec qui gagne plus d'argent en rompant ses contrats qu'en décrochant
ses titres. Ça
m'arrange. Ouais.
Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Bennett.
C'est pas lui qui a parlé, c'est moi.
Ah bon? Ah ouais, c'était brillant. Allez, dans un instant, c'est pour ça que ça m'a étonné. Je croyais que c'était Bennett.
Oui.
Dans un instant,
ah oui,
le vestiaire des grandes gueules du sport, il me jette une bouteille en pleine face.
Avant le stylo.
Et on va parler de la Champions Cup aussi en rugby, les demi-finales avec Toulon, avec l'UBB, à suivre sur RMC. On revient dans un instant, au 32-16 avec vous.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.